Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de Horreur Québec, le balado. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial Fantasia. Wouhou!
Yeah!
On sait que la programmation officielle est sortie, donc on va en discuter avec notre invité qui va nous en parler plus en détail. Mais pour le moment, on est avec Eric qui va nous donner les nouvelles et évidemment, bon, Raphaël qui est toujours avec moi. Je t'oublie pas.
C'est bon. J'ai presque eu peur de sombrer dans l'oubli, dans les oubliettes.
On t'oubliera jamais.
Et salut Eric.
Comment tu vas?
Hey, ça va bien, vous autres, mes pleins de talent.
Comment ouais, ça va super bien.
Ça va super.
Hey, je suis tellement content d'être avec vous, surtout que là, c'est un spécial Fantasia, donc je suis bien excité comme à chaque année. Je pense que ça risque d'être fort intéressant. J'ai bien hâte d'entendre votre entrevue.
Oui.
Ouais. Non, tu on décortique beaucoup de films, là, puis je pense que ça va donner goût à plusieurs personnes de au moins se prendre la passe à 75$ là, pour les films en virtuel. Là.
Oh,
c'est
yeah.
Une aubaine, là. Moi, ça me coûte 120$ ouais, chaque année.
Ben oui, c'est vraiment pas cher. Ça n'a pas de bon sens. Bref, mais là, je vais. Écoute, ça suffit, Fantasia, vous allez en parler longuement tantôt. Je veux faire une première petite nouvelle que vous, pour ceux qui n'ont pas vu passer ça la semaine passée, je ne me trompe pas. C'est que American Horror Story est maintenant disponible sur iTunes. Et là, je dis American Horror Stories. Qui a commencé le 15 juillet, par contre, la semaine passée. Donc, je ne sais pas si vous étiez comme moi, désespéré de trouver une place où l'écouter légalement, on s'entend?
Oui,
absolument. Il n'y avait aucune place. Et là, j'ai trouvé, vendredi, sur iTunes, que c'était maintenant disponible. J'ai écouté les deux premiers. Ça commence en force. J'ai bien aimé ça. J'ai hâte de voir le reste. Bref, je vais peut-être vous en parler plus tard quand la saison sera terminée. Mais bon, si ça vous intéresse, moi j'ai payé 20$ pour la saison complète.
OK.
Sinon, c'est 3,49$, si je ne me trompe pas, par épisode. Donc, allez voir ça sur iTunes.
Mettons qu'on achète le premier épisode, est-ce que la série, ils nous déduisent le 3,40$? Ou
je crois que oui. Okay. Je ne suis pas certain à 100%, là, mais je crois que oui. Je crois qu'ils déduisent. Ça va coûter moins cher. Mais tu sais, à 20$, moi, je pense qu'il y a, je ne sais pas combien d'épisodes, une dizaine d'épisodes, si ce n'est pas plus.
Okay.
Je pense que ça vaut la peine.
Oui, absolument.
C'est bon?
Ouais.
Donc, j'enchaîne avec une autre petite nouvelle, toute fraîche, qui est sortie aujourd'hui, le 22 juillet 2021. On dévoile l'affiche du nouveau film de Jordan Peele. Est-ce que vous êtes excité?
Oui!
Oui, vraiment.
Oui.
Parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a réalisé Get Out et Us. Mm-hmm. Écoute, il y a très peu de détails. On n'a même pas un synopsis là, de sortie pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est que le troisième titre de Peele va mettre en vedette Daniel Kaluuya, qui a joué dans Get Out. Stephen Young, je ne vais pas le même prononcer, qui jouait dans Walking Dead et dans Mayhem, et Kiki Palmer, qui jouait dans Scream, qui vont être de la distribution. Donc, mais le film va sortir, il ne faut pas être pressé, là. Le film va sortir la même date, le 22 juillet 2022.
Ah, bon, dans un an.
Dans un an.
Mais je ne sais pas si vous irez voir sur... à Québec, l'affiche. Elle est très belle, très mystérieuse. J'ai bien hâte de voir de quoi il s'agit.
Oui, je suis en train de la regarder. C'est vrai que c'est intriguant.
Oui, ça dit pas trop. Écoute, on voit un nuage avec un espèce de bout de cerf-volant.
Oui. Ben, on a très hâte de voir ça, le nouveau film de Jordan Peele. Est-ce que vous aviez aimé, vous, Get Out?
Moi, j'avais beaucoup aimé Get Out. J'avais moins aimé Us.
Ouais.
Même chose.
Je pense que c'est un peu le consensus. Là. Il a perdu beaucoup de monde avec la fin, je pense. Là.
Ouais.
L'espèce de d'explication qui était un petit peu... qui a laissé plusieurs personnes sur leur fin, je pense. Là.
Ouais. Mais j'ai Get Out, j'avais vraiment aimé ça. Parce que j'ai moins eu le même effet qu'avec Us. J'ai pas détesté non plus, mais c'était moins coup de poing que Get Out. À mon humble avis.
Je suis 100% d'accord.
Ouais. C'est bon, on s'estimera pas là-dessus.
Non, ben, tu sais, mais je pense qu'on s'entend qu'il a fait deux bons films quand même.
Ouais.
Oui, absolument.
Et on ne chicanera pas là-dessus.
Non.
J'aime ça. On s'entend bien. Okay. J'enchaîne avec une nouvelle québécoise, amateur de jeux d'évasion et expérience en réalité alternée ou ARG, c'est la première fois que je vois ça. La nouvelle startup québécoise Ars Experience ouvre officiellement ses portes virtuelles. Basée à Trois-Rivières, la compagnie fondée par Benoît Mongrain propose des scénarios en ligne qui vous plongent au cœur d'une enquête interactive en se frayant un chemin dans votre vie quotidienne.
Ouh!
Ouais, intéressant.
Intéressant. Le joueur devra en effet tenter de résoudre l'énigme par le biais des différents médias. Coup de fil anonyme. Moi, je trouve ça cool. Courriel mystérieux, messages, textes cryptés, recherche web et même parfois des objets envoyés par la poste qui interagissent avec la personne au fil du temps. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ça me donne quasiment envie, pas quasiment, mais ça me donne envie de l'essayer.
Ouais, moi aussi, je trouve ça intéressant, c'est intriguant, tu sais, ça met un peu de piquant dans la
vie. Oui, puis, tu sais, disons, t'es bien occupé, puis t'oublies ça, puis là, t'as reçu un coup de fil anonyme, puis là, tu te mets à capoter. Ah oui, en tout cas, moi, ça serait mon genre, qui c'est qui m'a appelé, puis là, en tout cas, bref. Mais, bref, je pense que ça devrait être pas mal cool. Il va y avoir des prochaines annonces pour le dévoilement. C'est Les Secrets de la Sorcière en développement, qui promet une enquête en lien avec Marie-Joseph Corriveau, bien connue.
Ouais,
la Corriveau, dans le fond, bien connue du folklore québécois. Il y a un premier scénario, par exemple, qui sent c'est Mystère à l'Observatoire. C'est plus à savoir science-fiction. Okay. Où le professeur Nicolas Astaire, directeur de l'Observatoire des 88 constellations, est mystérieusement décédé. Dans ses derniers jours, l'homme semble particulièrement absorbé parce qu'il est observé dans le ciel. A-t-il découvert quelque chose de sinistre avant de mourir? Bref, si vous voulez avoir plus de détails, tu sais, moi, je trouve ça vraiment chouette. Vous pouvez aller sur le site d'Ars Experience pour tous les détails. Sinon, allez sur horreur.québec. Il y a le lien qui est déjà là.
Ceux qui l'écoutent sur YouTube, je vais le mettre en description aussi.
Super! Moi, écoute, c'est pas le genre d'affaire que je fais nécessairement d'habitude, mais celui-là m'intéresse grandement.
Il faut que je fasse attention. Je m'étais inscrite à un truc qui s'appelle Empty Faces, puis ils t'envoient des paquets à tous les mois. Puis après 2 mois, je m'étais désintéressée, fait que j'ai continué à recevoir ces paquets-là. Puis là, ils traînent tout dans ma bibliothèque depuis 2 ans et demi.
Là, c'est cool. Là, tu vas pouvoir recevoir des coups de fil anonymes, des textos cryptés. Je trouve ça vraiment chouette.
Puis je pense que le fait que ça soit absolument fait au Québec aussi, ça va. Je veux pas, ça va être plus intriguant pour nous. Ça va peut-être plus nous parler, justement.
Oui, c'est tout ça. T'as pas à ouvrir la boîte. C'est quelqu'un qui vient dans ton. Alors, non, c'est intéressant.
Puis on n'arrête pas de nous dire d'encourager local.
Absolument.
C'est une excellente raison de le faire.
Ben, si on le fait, on s'en reparlera.
Oui. Écoute, on vous tient.
Tout à fait.
Promis. Et j'enchaîne avec une petite dernière nouvelle. Zack Snyder développe une suite à Army of the Dead pour Netflix. Et là, moi, je vous le dis tout de suite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ça. Moi, j'ai détesté ça pour mourir. On a un running gag dans mon couple. Quand on écoute un film et on n'a pas aimé ça, on se pose la question, est-ce que c'était pire que Army of the Dead? C'est notre nouveau barème.
C'est notre nouveau barème.
Et pourtant, moi, je suis un amateur de Zack Snyder. J'aime bien ses films habituellement, mais là, j'avoue qu'il m'a perdu. Je ne sais pas pour vous.
Ouais, ben, c'est... Je viens juste de l'écouter, ça fait comme deux jours, là, puis je voulais en parler, parce que la personne avec qui j'écoute le plus de films d'horreur, c'est mon meilleur ami, puis lui, il avait vraiment haï ça, puis je pense que je vais le rejoindre là-dessus. D'habitude, on a souvent des opinions différentes, mais là-dessus, je pense que je vais le rejoindre, j'ai pas aimé ça non plus, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment à côté, et je pense que c'est un ratage, là. Ben, tu sais, visuellement, c'est... Même visuellement, l'espèce de joueur qui est flou, souvent, j'étais comme genre à m'amener. Fais ton point, là. En tout cas.
Ouais. Écoute, ça dure 2h30, hein. Je veux dire,
ouais.
C'est long.
Chloé, il y a des bons côtés. Que... J'ai pas trouvé ça absolument horrible, mais clairement, je le réécouterai jamais, là.
Ouais, moi non plus.
Puis la suite ne m'attire pas particulièrement.
Ben moi, en général, je ne me pitche pas sur les trucs de zombies. Fait que là, je vais. Selon ce que vous dites, je ne l'écouterai pas.
Mais écoute, si tu dis, non, mais dans le fond, si tu veux faire ta propre opinion, tu as le droit, c'est bien correct. Il y a plein de gens qui ont aimé ça. Donc, moi et Raphaël, on n'a pas la science infuse non plus. Mais,
non, c'est clair.
Écoute, si tu as 2h30 à perdre. Why not?
Ben oui, pourquoi pas. Parfait.
Après ça, on pourra s'en parler après.
Si t'es trop de bonne humeur une journée et t'as le goût de pogner un down. Mais...
Effectivement. Mais là, tu sais, en tout cas, je vais quand même vous donner quelques détails de cette nouvelle-là. Dans le fond, c'est qu'on va. Il va y avoir Army of the Thieves. J'ai la misère à le dire. Oui, Army of the Thieves. Ça va être un épisode basé sur le personnage de Dieter, qui moi était mon préféré, là, celui qui a débarré le coffre-fort, si je peux dire.
Ouais, ouais.
Le russe, si je ne me trompe pas. Moi, je l'aimais bien celui-là. C'était bien une des seules choses que j'ai aimées dans le film. Ça, c'est prévu pour l'automne 2021. Écoute, il va y avoir aussi une série animée Army of the Dead, Lost Vegas. Prévu pour le printemps 2022, qui va porter sur l'origine de Scott, qui était joué par Dave Bautista. Ouais. Et qui va mettre en lumière les efforts de son équipe de sauvetage pour protéger tout ce qu'il aime pendant la première phase de la mystérieuse épidémie de zombies à Vegas. Aussi, THR dévoile que toutefois aujourd'hui... qu'encore plus de zombies nous attendent. Le site révèle officiellement que Snyder développe une suite accompagnée du co-scénariste du premier film chez Hatton. Hey, moi, il faut en participer pour pratiquer mon anglais. Le projet fait partie d'une nouvelle attente d'une durée de 2 ans que la compagnie de production du cinéaste de Stone Quarry a signé avec la plateforme. Écoute, pas super de détails pour l'instant pour cette suite-là officielle. Là, déjà qu'il y a 2 autres projets, c'est assez.
Il faut croire que ça a marché là, sur Netflix. Il a dû faire des bons scores là, s'il s'emballe autant.
Écoute, il y a eu. Netflix a dévoilé que 75 millions de comptes demandes dans le monde avaient synthonisé Army of the Dead au cours des 4 premières semaines de sortie.
Donc, ok, quand même. C'est...
Oh oui! C'était big. Là. C'était big.
Ouais, ça ferait un gros box-office.
Oui, oui. Mais écoute, si ça vous tente, ben, écoutez-le. Vous nous donnerez votre opinion.
Parfait.
Écrivez-nous à Balado à Commercial Horreur Québec si vous avez aimé ça.
Envoyez-nous
des insultes.
Oui, oui. On est capable d'en prendre. On est capable d'en prendre. Mais sur ce, mes chers amis, je vous souhaite une belle semaine. Profitez-en. Il fait beau. Il fait chaud. Et on se revoit au prochain épisode.
Ouais, puis on va discuter de fantasy ensemble, je suis pas mal certain.
Ah, c'est clair, là, je pourrais pas me retenir.
C'est bon, à la prochaine, Eric.
Allez, à la prochaine, bye.
À la prochaine.
Bye bye.
Donc, bienvenue dans ce deuxième segment de notre balado spécial Fantasia. On a l'honneur et la chance de recevoir aujourd'hui pour parler de la programmation de Fantasia 2021, Justine Smith, qui est une des programmatrices à la section Underground et qui travaille aussi avec la section internationale. Allô, Justine?
Bonjour, merci pour m'avoir. Je suis très, très hâte de parler du programme cette année.
Oui, on vient de découvrir la programmation au moment de l'enregistrement. Là. On est le 21 août, là, et qu'on vient d'avoir les derniers titres. Là. On est super excités. Ouais, c'est Noël pour tous les fans de cinéma de genre du Québec et du Canada et de l'international même avec tout le volet en ligne. Donc, pour commencer, j'aurais envie de te demander, Justine, un peu de te présenter un peu de c'est quoi ton travail fantastique, c'est combien de temps que tu travailles là?
Je travaille comme dans la section de programmation. Ça fait depuis 3 années et ça fait 2 années que je fais la section Underground. Mm-hmm. Avant ça, j'ai travaillé avec le festival sur leur émission de télé comme un co-host. Une année, j'ai fait beaucoup de vox pop, je vais au red carpet, c'était vraiment, vraiment du fun. Mais avant ça, j'ai aussi une très longue histoire à couvrir le festival comme critique du cinéma. Alors, moi, j'ai vraiment une très longue histoire avec le festival.
Ouais. Puis, c'est quoi les circonstances qui t'ont amené à rentrer dans l'équipe?
Moi, je dirais que c'est vraiment juste la chance. je connais beaucoup de l'équipe depuis très longtemps. Et j'ai vraiment, je crois que c'était Rémi Fréchette qui m'a donné mon nom quand ils avaient besoin de quelqu'un qui parlait en anglais pour le programme de télé. Et puis après ça, c'est juste comme j'étais plus impliquée à chaque année. Moi, j'adore le cinéma underground aussi, alors c'était vraiment un passage comme un peu évident après une année que je serais une très bonne comme ambassadrice de ce sorte de cinéma. Alors, voilà.
Super. Puis, tu dis ça fait 3 ans, ça veut dire que tu as juste vécu une édition normale de Fantasia avant de tomber dans les éditions pandémiques. Mettons, tu sais, on n'en a pas vu que l'année dernière, toute la programmation pour tout ça s'est sortie un peu dans les dernières minutes. On n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais c'était quoi un peu les défis que vous avez rencontrés là, avec la pandémie? Comment ça s'est fait, l'espèce de transition pour permettre justement la diffusion en ligne et puis tout ça?
Je dirais que c'était assez difficile parce que quand Fantasia, c'est vraiment un des premiers festivals qui était en ligne l'année passée. Nous sommes en juillet normalement. Nous avons poussé la date en août. Mais comme les grands festivals comme Cannes, ils ont été annulés plus ou moins. Alors, il n'y avait pas vraiment un blueprint à suivre. Alors, c'était vraiment à nous d'essayer de comme naviguer les choix, comme où on va diffuser les films. Alors, ça, c'était une grande question. Maintenant, nous utilisons Chef 72, qui est très commun, comme Toronto l'utilise, je crois, comme tous les grands festivals. Mais c'était vraiment nous qui étions la première. Et alors, il y a beaucoup de défis, comme des petites questions. Comment est-ce que tu vraiment comme trouves le public encore? C'est aussi une question. Beaucoup de gens ne veulent pas regarder des films en ligne.
Ouais.
Comment est-ce que tu peux aussi avoir l'aspect social, parce que pour tout le monde qui sont des grands fans de Fantasia, c'est vraiment un festival qui a cet élément qui est très... c'est un événement de public, là. C'est pas comme des gens qui sont chez eux, qui ne disent rien. C'est vraiment quelque chose qui est très, très impliqué dans la société, dans la culture. Et ça, c'était une des grandes difficultés. Nous avons essayé d'utiliser un Discord server, des Q&A qui étaient en direct. Je crois qu'en général, ils ont assez bien marché. Chacun que j'ai fait, il y avait beaucoup d'interactions. Les talents étaient très heureux aussi. Je dirais, c'est juste, il y avait quand même un manque. Comme moi, je suis très hâte de voir quelques films en cinéma encore. C'est pas la même chose à la fin de la journée. Mais c'était une grande défi et je crois que nous avons assez bien fait en considérant que nous sommes pas le plus grand festival du monde, mais ça a bien allé, oui.
Ouais, c'était très bien fait. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas entendu qu'il y avait beaucoup de bugs ou quoi que ce soit. Là. C'était très fluide.
Ouais. Puis toi, Chloé, aussi, en tant que personne qui fréquente Fantasia assez souvent, là, comment t'as trouvé ça? Est-ce que tu as réussi à trouver un petit peu le côté humain malgré tout au niveau de la pandémie?
Ben, c'est ça. C'est vraiment ça qui manque. Tu t'assois dans la salle, puis c'est seulement des fans d'horreur ou de films de genre qui sont là. Donc, on n'a pas les mêmes réactions. Tu sais, quand tu vas au cinéma et que tu écoutes un film comme The Conjuring, puis là, il y a une grosse scène avec plein de sang. Bon, au cinéma, les gens vont faire « Ah! » Puis à Fantasia, les gens vont faire « Ouais! » Tu sais, c'est pas vrai. Les petits miaux aussi qui manquaient, qu'on avait pu, tu sais, plein de petits... La pub
Yongsheng.
Oui, c'est ça, cette pub-là qu'on voyait. Moi, j'étais toute seule dans mon salon. « Ouais! » mais ça n'avait pas le même impact. Donc ça, c'est sûr que ça manquait beaucoup. Là. Fait que cette année, au moins, on a quelques films en présentiel. Mm-hmm. On va une formule hybride, je pense que ça va être... Mais ça va être l'idéal aussi, parce que des fois, il y avait des films qui étaient très tard. Donc, je ne sais pas si vous aviez l'intention ou si vous aviez pensé aux prochaines années, si vous voulez continuer une formule hybride ou si ce n'est pas encore sur la table.
C'est pas moi qui fais la décision, mais je pense que tout le monde en parle, que ça fait du sens de continuer d'une façon, parce que nous avons eu beaucoup de gens qui nous avons parlé, ils sont des parents, ils ne peuvent pas aller voir un film à 21h un mardi soir, ou des gens qui, pour des autres raisons, ne peuvent pas aller au festival. Alors, avoir comme une opportunité de voir des films en ligne, ça donne accès à beaucoup de gens qui normalement n'ont aucune opportunité d'aller à Fantasia. Et pour moi, je crois que c'est vraiment une belle opportunité de leur continuer à donner des opportunités de voir ces films, même si c'est pas les plus grands, comme tu peux pas voir comme Suicide Squad, tu peux quand même découvrir des petits films qui peut-être vont jamais jouer, vont jamais aller être en ligne, et avoir cet aspect de cette expérience de festival quand même.
Ouais, tout à fait.
Absolument. Puis c'est ça l'expérience de festival pour moi, c'est découvrir des films dont j'ai des réalisateurs dont j'ai jamais entendu parler, ou des films étranges qui sortent de ce qu'on est habitué de voir.
Ben, je pense que ce que tu dis, en fait, c'est le cas de plusieurs de nos auditrices et nos auditeurs. Là. L'expérience de Fantasia, c'est avant tout la découverte. Là. C'est de trouver des petits films qu'on n'aurait pas la chance de voir sur aucun autre écran. Là. Parce qu'on s'entend que la majorité de la programmation ne sortira jamais en salle au Québec dans d'autres circonstances. Là. Mais malheureusement, à certains égards, parce que des fois, il y a des petits chefs-d'œuvre que c'est va être une seule occasion de notre vie de le voir en salle.
Là. Oui, absolument.
Oui, et c'est juste à regarder des années précédentes et regarder la sélection. Et il y a quand même beaucoup de films qui sont impossibles à voir. Là. C'est le 25e anniversaire cette année. Et si tu regardes, il y a vraiment des grands, grands films la première année, mais il y a aussi plusieurs films qui sont impossibles. C'est comme, ça, ils ont joué un fois en salle à Fantasia et c'est la seule fois qu'ils ont joué au Québec. C'est pas sur DVD, c'est pas sur Netflix. Alors ça, c'est vraiment un des grands plaisirs du festival pour moi, c'est de découvrir ces petits films. Pour moi, la grande question l'année passée, c'était comment trouver vraiment des gens qui vont voir ces films qui n'ont pas de grand nom, parce que dans mon expérience, je trouvais que en comparaison avec un festival en personne, les gens en général écoutaient moins de films. Et c'est pas la même chose quand tu vas à Concordia et tu vas à Jay de Sèvres ou quoi. C'est très facile de dire, ah, je vais rester pour le prochain film, je le connais pas, je connais pas les noms, mais je suis ici. Ou quelqu'un à l'extérieur dit, ah, tu dois voir ce film, ou tu rencontres le cinéaste McKibbins. Alors, c'est la grande difficulté pour moi en ligne, c'est trouver des façons de encourager des gens à faire cette découverte si c'est pas quelque chose qu'ils font normalement, parce que tu veux aussi aller à l'extérieur, prendre une bière aussi, des nuances.
Ben justement, avant qu'on traverse pour la programmation de cette année, on se demandait, est-ce que tu aurais un coup de cœur dans les films que tu as programmés dans les trois dernières années? Que ça peut être un film de cette année aussi, mais on va y aller de toute façon. Est-ce qu'il y a un film que vraiment tu dis, ça, c'est vrai, je suis vraiment fière d'avoir réussi à le programmer, parce que c'était vraiment un petit bijou.
Ça, c'est une très bonne question. Je dois y penser. C'est peut-être un film de cette année, je dirais. Ouais. C'est un film qui s'appelle Baby Don't Cry.
Ouais.
C'est un premier mondial et c'est un film d'un genre, mais comme un peu hybride. C'est pas nécessairement un film d'horreur ou un film de crime. C'est un peu un film sur l'adolescence. Et c'est vraiment un projet qui est fait par cette jeune femme, Zita Bey, c'est elle qui a écrit le scénario. Elle est aussi l'actrice. Elle a fait beaucoup comme le design du film. Il y a un réalisateur aussi, mais même quand je lui ai parlé, il dit c'est vraiment le film de Zita. Et c'est une histoire d'une jeune immigrante chinoise qui tombe en amour je crois que c'est Washington ou dans le Pacific Northwest, plus ou moins. Et c'est un film tellement intense et tellement beau. Et tu as vraiment cette expérience de comme, ah, c'est la découverte du nouveau talent. Incroyable. Et ça te apporte vraiment dans les émotions extrêmes d'être 16 ans, 17 ans, cette vague où tu fais, sur un côté, tu veux être accepté, tu veux être une membre de la société, à l'autre, c'est une réjection totale de tous les membres d'autorité, du gouvernement, de vos parents. Et pour moi, c'est comme un film qui est comme si... Je l'adore, là. C'est juste un film qui, pour moi, était tellement spécial. Et les autres membres de l'équipe, quand ils ont vu aussi, avaient beaucoup la même sensation. C'était pas même moi qui ai écrit les program notes, c'était Justin. Juste parce que son réaction aussi dans nos emails était tellement intense que j'ai dit, ben, vous avez déjà écrit comme un texte et j'aimerais comme si peu comme continuer. Et lui, il travaille aussi dans une école secondaire. Alors pour lui, non, c'est un film qui est vraiment, ça capture cette période comme parfaitement.
Ouais, s'il faisait partie de ma liste, là, le synopsis sur le site de Fantasia était incroyable, puis ça m'avait tout de suite frappé, là. Ouais.
Mais c'est vraiment, vraiment... Pour moi, c'est quand même, ça va être un classique dans 5 à 10 années, comme d'un film de ce genre. C'est un film d'amour, mais c'est un film aussi d'obsession, d'immigration. C'est tout qui est incompassé. C'est vraiment... C'est quelque chose de vraiment, vraiment spécial pour moi.
Wow. Ben, c'est déjà... on encourage déjà les gens à mettre sur leur liste « Baby, don't cry ».
Je viens de l'ajouter pendant que tu parlais, j'ai mis ce nom.
On peut peut-être commencer par parler un peu de la programmation underground, parce que moi, je veux absolument, dans ce balado-là, qu'on parle de Frankenzed.
Oui!
c'est clairement le genre de truc qui m'allume au plus haut point. Là. Aussitôt que j'ai vu les premières images, j'ai fait genre, oh mon Dieu, ça, c'est absolu que faut absolument que je le voie. Ben, est-ce que tu peux nous en parler un peu, Justine?
Oui, alors Frankenzed, c'est un film qui a déjà joué sur des autres festivals. Et pour moi, c'est comme un film qui, si ça aurait eu l'opportunité d'être sur le grand écran, serait comme un des plus grands films du Fantasia de cette année. C'est un film de, comment tu dis, puppets? Marionnettes. Avec beaucoup, beaucoup... beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Comme un extrême beaucoup de sang. C'est un film do-it-yourself. Le réalisateur a travaillé 6 années pour le faire. Et moi, j'ai déjà eu l'opportunité d'en discuter avec lui. Et pour lui, c'était comme, comment est-ce qu'on peut faire que chaque moment et chaque image du film est le plus extrême possible? Alors, ils ont essayé de faire comme... Si c'est un cœur qui bat dans un comme en close-up, ça va être un cœur qui bat, la caméra qui bouge, du sang qui sort, de liquide ici. Et c'est toujours comme un challenge un peu pour lui, que c'est quelque chose qui est tellement dynamique que tu ne peux pas comme ressentir. Je dirais aussi, c'est un film qui est comme un très... c'est très sincère et c'est une histoire d'amitié entre deux monstres. Et c'est juste un film qui est vraiment bizarre, mais tellement aimable. C'est comme, tu peux pas... C'est un film qui te frappe le cœur, mais aussi c'est comme dégoûtant. C'est comme, pour moi, c'est un des... Les deux choses que je cherche d'un film d'horreur, c'est comme, ah, ça me fait comme, ah, c'est très cute, mais l'autre fois, je veux presque pas regarder parce que c'est vraiment dégueulasse.
Ouais, c'est ça. Moi, si j'avais à comme choisir un film dans toute la programmation de Fantasia que je voulais absolument pas rater, je pense que ça aurait été seul. J'ai vu les premières images puis ça m'a fait capoter. C'est exactement. Je pense que je suis le public cible le plus. C'est vraiment mon target. Et pour rester dans la programmation underground pour le moment, dans le fond. Il y aurait aussi le film Giving Birth to a Butterfly que j'avais trouvé bien intriguant. C'est peut-être un peu moins horreur, je sais pas, tu me contrediras pas.
Oui, c'est pas un film d'horreur. Je vais dire comme c'est vraiment un film surréel, mais pas nécessairement horreur.
Ça, ben, je trouvais que c'était quand même intéressant, fait que j'ai envie qu'on en parle quand même un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire deux mots un peu sur Giving Birth to a Butterfly?
Oui, c'est un des films que le fait que c'est pas évidemment un film d'un genre, nécessairement, que j'ai mis, je l'ai écouté, j'ai aimé tellement, mais j'ai dit, ben, je vais attendre un peu, juste parce que moi, je ne suis pas certaine s'il va trouver un public à Fantasia. Mm-hmm. Mais c'est dans ces situations, parfois, dans deux semaines, tu oublies le film au complet, alors ça te donne votre réponse. Mais dans ce cas, c'est un film que je me sentais que je pensais à, presque à chaque jour. Là. Mm. Et je l'ai fait écouter des autres membres du programme et eux aussi disaient « Ah, c'est intéressant », mais trois ou quatre jours plus tard, c'était un peu plus qu'intéressant.
Ouais.
C'est un film que surtout les premières 15 minutes, tu as vraiment une sensation que tu ne sais pas c'est quoi exactement le ton. Et c'est un peu... c'est pas que c'est épeurant, mais c'est comme tu as cette malaise qui est très extrême. Et je dirais que c'est comme... C'est comme un peu... Tout le monde disait « Ah, c'est comme un peu Twin Peaks », mais c'est quand même un peu Twin Peaks, ouais. Le fait que c'est très Americana, c'est un road trip, c'est très kitsch. Mais à l'autre côté, c'est aussi très sincère. C'est une histoire, c'est un road trip entre une mère et sa belle-fille qui est très... c'est quelque chose qui est très inconfortable, je dirais. C'est juste parce que c'est des Américains qui ont des difficultés de vraiment parler de leurs émotions. Et il y a des éléments qui sont très, très bizarres qui arrivent. Tu sais vraiment pas où la ligne entre la réalité, la rêve. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans notre monde ou non. Et c'est tout le film, c'est dans cet univers très intéressant et bizarre, mais sans être... Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même très ancré par des personnages très intéressants et aussi une histoire qui me frappe personnellement.
Ouais, c'est ça. Puis c'est tourné en 16 mm avec les...
Oui,
les...
Je sais c'est très beau.
On a beaucoup de cinéphiles qui trippent sur l'image là, dans les gens qui nous écoutent. Et que je pense que ça va attirer l'attention, ça aussi. Là.
Oui, c'est un des films les plus beaux du festival, dans mon avis. C'est incroyable. Et c'est encore ça donne un peu plus même une sensation dreamy.
Ouais.
La façon qu'ils utilisent la pellicule.
Avec le grain particulier de l'image.
Oui.
Fait que peut-être juste avant de passer à une autre section, j'aimerais juste qu'on glisse des mots sur Caligari. Qui...
Oui.
Ouais. Ben, parle-nous de Caligari.
Alors, Dr. Caligari, c'est un film de 1989 qui est un film un peu porno, mais pas exactement, c'est softcore. Mm. Et c'est une continuation de Cabinet de Dr. Caligari. Mais c'est l'histoire d'une femme qui a un problème de libido. Mais le cinéaste, Steven Saïdian, qui a travaillé avec Hustler, alors il a travaillé comme directeur artistique de presque toutes les publications, Larry Flint. Mm-hmm. Il est aussi un directeur de art en général. C'est un film qui est comme Dr. Caligari, l'original, qui sait tout sur... comment est-ce que tu dis des sets?
Les décors.
C'est tout des décors, c'est tout dans le studio et c'est comme un fever dream. Comme je ne peux pas le décrire d'une autre façon. C'est extrêmement drôle, extrêmement bizarre. C'est un contraste qui n'est jamais plate non plus. Il y a une histoire, il y a des personnages. C'est quelque chose d'extrêmement visuel et la musique, c'est incroyable aussi. Pour moi, c'est comme... Je sais que les gens qui sont vraiment dans le cinéma de cult, ils connaissent le nom. Steven Seyrin, c'est comme une légende un peu.
Ouais.
Mais pour moi, c'était comme un... J'ai entendu le nom, mais c'était une grande découverte pour moi. Et avoir une restauration de ce film, pour moi, c'est comme un coup... C'est comme... C'est un pré... C'est... Comment c'est? C'est like a gift. C'est un gift pour
un cadeau
moi,
du ciel, comme un peu.
Un cadeau du ciel, exactement ça. Et je pense que les gens qui ne connaissent pas son travail vont être vraiment bouleversés. C'est quelque chose tellement unique. C'est tout comme un pop art nightmare de comme les années 80. C'est extrêmement intelligent, mais extrêmement drôle et bizarre. Ouais, je l'adore. J'adore ce film. Nous faisons un masterclass avec Steven Seyrin aussi. Et juste après lui parler cette fin de semaine, il a des histoires comme incroyables. Il est aussi très généreux. Il travaille encore dans le milieu. Il va, veut faire des autres films. Il y a une histoire comme très intéressante, très incroyable, comme dans le sens incroyable, comme tu peux presque pas le croire, mais il est tellement sincère et tellement charismatique que tu n'as pas aucun choix de lui croire aussi. Alors, ouais. C'est un de ces personnages. C'est comme un géant pour moi de le cinéma culte.
Ouais, c'est vraiment un personnage vraiment intéressant puis drôle. Puis c'est ça, il y a de l'audace aussi de s'attaquer à Dr. Caligari, qui est souvent cité comme le premier film d'horreur de l'histoire, là, le premier, là, le film allemand, là, l'expressionnisme allemand. Et que c'est ça, c'est sûr que ça va être une expérience de fou de voir cette restauration-là.
Oui, c'est un film. Les couleurs, c'est comme... C'est un film de noir, de rouge, de jaune, les costumes. C'est comme... Ça pourrait... C'est comme dans un version alternative de l'histoire, du cinéma. C'est comme un Rocky Horror, mais 15 ans plus tard, un peu.
Très cool. Fait que, Chloé, j'aurais envie de te demander, toi, est-ce qu'il y a des films dans la programmation de Fantasia que t'as envie de jaser depuis tantôt? C'est moi qui parle de mes...
Oui, il y en a plein. Mais je vais essayer de me limiter. Donc, il y en a un qui m'intrigue. C'est un des premiers que j'ai vu ce matin quand j'ai fait la liste. C'est The Beta Test. C'est un gars qui vit une aventure avec une inconnue. J'ai trouvé que le synopsis était intriguant. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais. Moi, je n'ai pas vu le Benetas.
Ah non!
OK, non. Mais c'est comme ça. C'est quoi, je le cherche. Où est-ce que je l'ai vu? Non, je n'ai pas eu la chance de le voir parce que c'est un des plus grands films comme du festival. Alors, malheureusement, mais moi, j'adore Jim Cummings aussi. Alors, comme je suis... totalement sur votre côté. Moi, j'ai très hâte de le voir parce que comme Thunder Road était incroyable. Alors oui, c'est un des grandes sélections du festival. Malheureusement, c'était comme... Si quelqu'un l'a vu à un festival, j'imagine, et ils ont programmé et moi, j'ai pas eu la chance de le voir. Mais okay. Moi, je pense que c'est un très bon choix.
OK. Sinon, est-ce que tu as vu... Ah oui, il y en a un autre qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est... Il est très long. Attention, je vais prendre un. Woodlands, Dark and Days Bewitched, The History of Folk Horror.
C'est 3 heures. Mais pour moi, ça me donne plus la sensation que je veux le voir. Je veux le voir encore plus. Je crois que Célia qui a écrit les notes de programme a dit, si tu écoutes 12 heures sur un documentaire Netflix, 3 heures, c'est vraiment rien.
Ah, c'est clair.
Moi, j'adore Kayla Jenis. Je trouve comme House of Psychotic Woman qu'elle a écrit. C'est un chef-d'œuvre. C'est un des meilleurs livres sur le cinéma en général pour moi. Et aussi, j'adore le folk horror. Et comme les talents qu'elle a dans ce documentaire sur le folk horror, c'est comme des grands... j'ai utilisé déjà l'expression des géants, mais c'est vraiment des géants du cinéma de genre, contemporain, mais aussi d'histoire. Et le fait que la jeunesse a travaillé tellement longtemps dans le milieu, j'imagine que les entrevues et les histoires qu'elle va recevoir, c'est sûr un next level. C'est pas comme quelqu'un qui décide de faire un documentaire sans y penser, c'est quelqu'un qu'elle a travaillé dans cette... Elle a écrit sur ce cinéma depuis comme 20 années, 30 années. Ça doit être... Moi, et tous les critiques sont tellement bons au cinéma. Je suis tellement hâte de le voir. Je peux pas comme... Je pense que c'est une très bonne choix.
Ouais, moi, ils ont nommé dans le synopsis Ari Aster, puis...
Robert Eggers?
Non, le film, là, qui a été repris, puis dans le...
Le Wicker Man?
Oui, Wicker Man, mais l'original des années 70.
Quand j'ai vu tes mains autour de ta tête, j'ai pensé à Nicolas Cage tout de suite.
Oui, c'est ça, exactement. oui, c'est ça. Donc, il y en a mis Ari Aster puis The Wicker Man dans la description, puis moi, j'ai pas eu besoin de lire plus loin si j'avais envie de le voir immédiatement. Fait que là, tu me donnes encore plus envie de le voir. Sinon, et là, je commence à avoir peur. T'as-tu des films que...
qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que tu as envie de jaser?
Un des films que moi, je suggère comme hautement, c'est Hellbender. Je ne sais pas si vous avez écouté The Deeper You Dig il y a quelques... trois ou quatre années. Alors, c'est le retour de The Addams Family. C'est une famille qui crée des films depuis assez longtemps, mais ses derniers films sont des films d'horreur. Et Hellbender, c'est comme un film de occult, de famille, mais il y a de la musique parce que leur fille adolescente et son et leur père sont aussi des musiciens. Mm. Et si tu as écouté le Deeper You Dig, c'est vraiment, ils n'ont pas d'argent, mais ils font des plans incroyables. Ouais. Et vraiment, et ils ont beaucoup aussi de cœur dans leur film. C'est comme, c'est difficile à décrire sans l'écouter, mais c'est quelque chose qui est vraiment comme, tu as vraiment une sensation qu'ils font des films pour survivre. Je ne sais pas, comme, c'est comme quelque chose tellement naturel. Et même si c'est comme un peu moins d'argent ou si des moments que c'est, ah, tu n'es pas certain si ça fonctionne, dans le total, c'est quelque chose que, pour moi au moins, me parle comme un, quelqu'un qui adore les films d'horreur et qui adore le cinéma en général. Il fait des films sans moyens, vraiment. Et c'est des films excellents. C'est des films qui sont beaucoup meilleurs dans beaucoup de cas que les grands films d'horreur qui ont comme des millions et des millions de dollars. Et si vraiment les gens ont beaucoup aimé The Deeper You Dig, j'imagine qu'ils vont beaucoup aimer celui-là. Mais c'est aussi pas exactement la même chose, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Et ça, je trouve, c'est aussi très intéressant. Ils avaient comme un succès, mais au lieu de juste copier, ils font quelque chose encore plus bizarre. Et alors, ça, c'est intéressant pour moi aussi.
Ouais, c'est ça. Le style visuel quand j'ai regardé la balance m'avait vraiment frappé, que j'avais fait genre, hein, ça a l'air vraiment ailleurs de Deeper You Dig.
Oui, c'est très intéressant aussi parce que leur fille, Zelda, qui c'est un des co-réalisatrices, elle va sur... Je le suis sur TikTok.
Ah oui?
Et elle fait des... Sur TikTok, elle explique beaucoup comme les effets spéciaux qu'elle utilise, comment elle utilise les caméras, parce que c'est vraiment elle qui s'intéresse vraiment sur l'image et sur... comme la composition des films, quand j'ai parlé, quand elle est venue pour la première film. Et c'est extrêmement intéressant qu'est-ce qu'elle fait, parce que c'est, parfois, c'est presque expérimental. C'est quelque chose qui vraiment pousse l'enveloppe, mais c'est aussi quelque chose de très jeune et très comme, moderne aussi.
Très cool. Ben, on encourage les gens à mettre ça sur la liste aussi. Lui, est-ce qu'il va être disponible en location aussi, ou si c'est en personne?
C'est pas en personne, c'est en ligne.
Ah, OK.
Et il va avoir comme cette année, qu'est-ce qu'on fait aussi? Pas pour tous les films, mais beaucoup des films qui sont sur l'horaire, qui jouent sur une heure fixe. Je crois que c'est 2 jours plus tard. Ça va être disponible sur VOD pour 24 heures.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est un peu de différence de l'année passée où c'était seulement à une heure fixe ou c'était seulement sur VOD.
Ouais.
Je crois que ça donne plus d'opportunité des gens de découvrir des films que peut-être ont beaucoup de réceptions qui sont excellents, mais ils ont manqué la projection.
Mm-hmm. Tout à fait, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as un autre film que tu as envie de nous présenter?
Oui, c'est un film. Celui-là, je crois que ça joue seulement en personne, c'est The Righteous.
Ouais.
C'est un film canadien, c'est de Terre-Neuve, de toute place, et c'est réalisé par Mark O'Brien, qui est un acteur que peut-être les gens reconnaissent de Ready or Not et Arrival.
Mm-hmm.
Et pour moi, ça, c'est vraiment un des films de cette année que, quand je l'ai vu, j'étais vraiment bouleversée. C'est un film que, si tu me présentes une image, je me disais, ah, ça me semble comme un film que j'ai déjà vu, c'est en noir et blanc. Ça semble être très déprimant, mais c'est un film psychologique d'un prêtre et un étranger dans cet environnement qui est très comme Terre-Neuve, c'est très...
Ouais.
Comment est-ce que... Je veux pas comme insulter des gens de Terre-Neuve, mais c'est très... C'est quoi? C'est comme... Beaucoup monotone. De pluie.
Ouais, ouais, mais on va, non, il n'y a pas d'insulte là. Je pense qu'il serait le premier à l'admettre. Mais ça reste magnifique. Là. Moi, j'étais à Terre-Neuve, puis même si c'est un peu gris et pluvieux à l'occasion, ça met en valeur la beauté des fjords. Puis mais
c'est ça. Et je crois que le film, ça trouve cette balance parce que c'est un film qui est extrêmement beau, mais ça vraiment, c'est comme un cauchemar. Canadien un peu.
Mm-hmm.
Et pour moi, c'est comme si les acteurs sont sur un niveau si incroyable que c'est comme un film, c'est comme le The Beguiled, the original, ouais. Avec Clint Eastwood. C'est cette sorte d'histoire, mais avec des éléments un peu surnaturels. Et c'est aussi un film de religion, mais dans la façon comme The Exorcist, c'est un film de religion. Et moi, ça m'a frappé comme d'une façon qu'un film canadien, ça fait quand même un peu longtemps que je me souviens que c'était quelque chose de tellement spécial. Je trouve que c'est un des films les plus essentiels du festival cette année. C'est un premier mondial aussi. Nous avons vraiment la chance. Et moi, j'ai tellement impressionné avec le talent de Mark O'Brien parce que c'est pas toujours qu'un acteur peut apporter cette sorte d'atmosphère comme un réalisateur, mais tu vois aussi comme un acteur, il travaille tellement bon avec les autres personnes qui travaillent parce que lui aussi est dans le film et c'est vraiment une histoire de trois personnages. Alors, c'est très, très intime, c'est très, très petit, mais c'est un film qui a des émotions et des nuances qui sont comme effrayantes et aussi c'est comme ça te brise le cœur aussi. C'est quelque chose que j'ai adoré et c'est un des films que je ne peux pas arrêter d'y penser depuis que je l'ai vu. Et ça fait quand même presque 6 mois, je ne sais pas, mais ça fait longtemps quand même.
Ouais.
Wow, quand même, je l'ai ajouté à ma liste.
Non, c'est ça. Ben les images ont l'air vraiment, vraiment intrigantes, là, justement, le côté noir et blanc, puis le travail sur les lumières, les silhouettes, là, ça a l'air vraiment, vraiment quelque chose.
Ça m'a fait aussi penser à le film The Night of the Hunter, un de mes films préférés. Ils ont des comparaisons en histoire parce que les personnages principaux, plus ou moins, sont des hommes de religion, mais aussi sur la composition et expressionniste noir et blanc qui te fait penser aussi comme à des films comme Dr. Caligari, ouais. que nous avons déjà parlé, l'original, pas le nouveau. Et aussi, c'est un film qui est vraiment très bien accompli. C'est vraiment quelque chose de spécial.
Cool. Peut-être dans la section internationale, est-ce que tu as des choses que tu aimerais nous présenter, des films que tu as programmés, que tu dis, ça c'est, j'ai envie d'en parler?
Je dois regarder. Un des films que je me souviens plus, c'est si c'était dans l'international ou dans Camera Lucida, mais King Car, c'est un film de Brésil, c'est comme un peu Christine, okay. Si tu le connais.
Oui.
C'est un killer car movie. Un classique de genre, je trouve. Et tous les gens qui aiment des films plus récents du Brésil, comme Bacurau, Friendly Beast, c'est un film de ce genre, un peu. Il y a des éléments politiques, c'est extrêmement drôle, extrêmement gory, il y a beaucoup de sang aussi. C'est un film qui, pour moi, c'est la version brésilienne de Crash, un peu. Okay. Alors, c'est un peu sexy aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais encore, je me souviens plus si c'était Camera Lucida ou International, mais c'est un film international.
Ouais, ça compte. Ouais, puis... Vas-y, Chloé, excuse.
Est-ce que tu as vu The Sadness, le film de Taïwan?
Non, les films asiatiques en général, c'est une autre section, et c'est très rare que je les écoute. Okay. C'est parce qu'ils ont c'est des autres programmateurs. Mais honnêtement, comme la section asiatique en général, c'est toujours incroyable.
Ouais, Fantasia, c'est probablement le festival au Canada où c'est que la portion de films asiatiques, c'est la plus incroyable. C'est vraiment un aspect du festival notable et remarquable.
Oui, et c'est juste à regarder les projections en personne. La plupart sont des films asiatiques et j'imagine qu'ils vont tous... c'est comme sold out. C'est ouais. juste... C'est un peu comme faire une garantie que les films vont être... C'est pas excellent, comme exceptionnellement du fun et de sadness. Pour moi, c'est un des films que j'aimerais voir beaucoup, surtout en salle. Je trouve que ça va me réénerginer et... réénergiser.
Ouais.
Oui. ça me fait, parce que comme toutes les images, c'est comme Fantasia du passé pour moi. Et ça me manque tellement. Et je pense que The Sadness, c'est un des films que moi j'ai aussi très hâte de voir.
Ouais, ben, on parlera pas beaucoup de la programmation des films québécois dans cet épisode-là, parce qu'on va avoir un épisode qui va être un peu plus centré autour de ça pour le prochain épisode. Sinon, toi, est-ce qu'il y a des films dans les sélections de films québécois qui t'intéressent particulièrement, que tu as comme envie de voir?
Brain Freeze. Je sais, c'est comme c'est un cliché, mais honnêtement, ça me tente beaucoup. J'aime pas toujours les films d'horreur qui sont comme un peu plus comme high budget, high brow, mais avoir des films québécois qui sont des films d'un genre, qui ont des grands noms et qui sont comme un film assez grand pour ouvrir le festival, pour moi, m'excite. C'est quelque chose que j'espère qu'il y a eu un grand succès pour que le cinéma québécois continue à avoir beaucoup de films d'horreur, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont la capacité de créer des films d'horreur excellents, et c'est juste que Sodec, peut-être, c'est quelques années en retard, je dirais, avec le public sur ce niveau. Alors, pour moi, oui, Brain Freeze, c'est probablement le plus grand film de la section que j'aimerais voir.
Mais c'est ça, on se rend compte qu'il y a un public aussi pour ça. Le succès de Fantasia depuis 25 ans, ça le démontre. Puis le monde se déplace là, quand il y a du cinéma de genre québécois. Brain Freeze, on va pas entrer dans la tête parce qu'on va recevoir Julien Gnafo pour en parler bientôt. Mais... ouais, mais c'est ça, c'est vraiment cool que pour le 25e Fantasia, on ait un film québécois en ouverture, un film d'autant plus intéressant parce que justement, comme tu dis, il y a des gros noms rattachés à ça, on pense à Roy Dupuis, on pense à c'est emballant, là, on a tous très hâte de voir ça.
Oui, et j'aimerais aussi dire que je suis très excitée à voir aussi Yes Sir Madame, surtout si je peux voir sur grand écran, parce que je ne l'ai jamais vu. C'est quand même un grand classique du cinéma québécois.
Ouais.
Et j'adore Robert Morin. Alors, ça, c'est aussi un des grands films. Je trouve cette année, il y a vraiment des rétrospectives très intéressantes. Et ça, c'est peut-être un des plus intéressants pour moi, au moins.
Très cool. Fait que je pense qu'on peut tranquillement aller vers la conclusion. Ça fait environ 45 minutes. Mettons ton dernier coup de cœur. On va y aller comme ça.
Mon dernier coup de cœur, c'est un film de Cabrin Lucida. Alors, c'est pas même moi qui l'ai programmé, mais c'est Agnes. C'est le nouveau film de Mickey Reese. L'année passée, nous avons présenté Climate of the Hunter. Et si tu as écouté ce film ou ses autres films, il est vraiment un cinéaste qui est très intéressant, très bizarre. Et Agnes, c'est un film de non-exploitation. Alors, c'est l'année un peu de ce genre avec Benedetta. Mm. Et je crois qu'il y a un autre même. Alors, c'est un film un peu d'une couvent et une religieuse et des prêtres qui viennent pour voir s'il y a, une histoire de possession. Mais c'est aussi un film que, comme au point de moitié, ça change complètement. Et c'est juste comme des images tellement bizarres. Si tu as vu Climate of the Hunter, il y a toujours des plans avec beaucoup de nourriture qui sont comme très 1970.
Ouais.
Et il continue avec ce film-là. Et en général, c'est juste un film que c'est difficile à catégoriser. Et ça m'intéresse beaucoup et je trouve que les images, c'est encore un film qui est très, très beau et très, très bien. Les acteurs sont incroyables, mais c'est incroyable d'une façon que c'est aussi très exagéré, très excessif. Alors, c'est pas réaliste, c'est très artificiel, c'est très c'est comme le théâtre, mais sur un niveau comme hyperspeed. Et surtout, l'actrice qui joue le sœur Agnes est incroyable. Je crois son nom, c'est comme Hayley McFarland.
Okay.
Et surtout avec une année avec Benedetta, c'est aussi le 50e anniversaire de The Devil. C'est une grande année pour les religieuses. Alors, pour moi, c'est un des essentiels du festival.
Ouais, non, c'est ça. Ça avait l'air bien intéressant. Je l'avais vu aussi dans ma présélection. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis en plus, on a l'air de vraiment suivre le point de vue du personnage là, de Agnès. Puis justement, c'est... Tous les films aussi qui ont des questionnements de la foi, puis tout ça, c'est tout le temps des choses qui me parlent, puis que j'embarque beaucoup. Là.
Mais The Righteous, c'est aussi comme ça, ouais, exactement. C'est ça. C'est vraiment un film sur cette question, exact.
Super. Fait que, ben, ça nous donne vraiment déjà plein d'idées pour à mettre à notre programmation de Fantasia, là. On a vraiment, on a dû nommer une bonne quinzaine. Fait que vous avez pas de raison de pas vous mettre des films à l'horaire dans le prochain mois. Justine, merci beaucoup de ta présence au podcast. C'était vraiment intéressant. C'était super cool de t'entendre nous parler des films. Tu nous as vraiment bien communiqué ta passion.
Merci pour m'avoir. C'était vraiment beaucoup de fun en discuter et ça me donne vraiment grand envie pour le festival aussi.
Ouais. Fait qu'on va peut-être se croiser à Fantasia, qui sait.
Oui.
Fait que merci à tous. Donc, on termine avec notre habituel cérémonial segment sur les recommandations. Chloé, qu'est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui?
Et moi, j'ai écouté un petit balado en français cette fois-ci. Oui, ça s'appelle « Histoire à mourir debout ». Pour le moment, il y a juste 3 épisodes qui sont sortis. Ça raconte l'histoire de l'affaire Claire Lortie, qui est une affaire criminelle d'un meurtre presque parfait, en fait, qui a eu lieu au Québec dans les années 1970. J'imagine qu'il va y avoir d'autres, éventuellement, d'autres affaires par la suite qui vont faire plus d'épisodes, hein, mais pour le moment, c'est 3 petits épisodes, mais c'est très intéressant, puis ça permet d'en apprendre plus aussi sur notre histoire criminelle au Québec, parce que on en a eu des cas aussi particuliers.
Ouais, c'est sûr.
Puis toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as envie de recommander?
Ben moi, en fait, c'est assez une évidence après l'épisode qu'on vient d'avoir. Là. J'ai vraiment envie que les gens se procurent la passe à 75$ de Fantasia pour regarder les films qui sont disponibles en sur demande et en streaming. Là. Ça vaut vraiment la peine. C'est une aubaine de pouvoir voir autant de films sur autant de jours avec un prix aussi minime. Là. Tous les amateurs de cinéma de genre sauter là-dessus, puis c'est le moment de faire des découvertes, là, de vraiment aller regarder un peu les films programmés, spotter ceux qui vous intéressent un peu, puis vous avez l'occasion de les voir à peu près, tu sais, dans les circonstances qui vous vont le mieux. Tu sais, des fois, Fantasia, c'est compliqué, on en a parlé, genre, il faut, tu sais, un jour de semaine, des fois, c'est compliqué d'aller voir un film à 10h dans un, tu sais, au cinéma, alors que là, vous pouvez regarder chez vous, dans votre confort, sans avoir à vous déplacer, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Pitchez-vous sur les passes de Fantasia.
Vous allez pouvoir nous croiser probablement si vous vous rendrez sur place.
Exactement. Donc, sinon, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode dans lequel on va parler de Brain Freeze et ensuite, on vous prépare quelque chose de bien particulier pour Fantasia. Ne ratez pas ça. Continuez de nous suivre sur Horreur Québec, la page Facebook, Instagram et également sur les plateformes de balado. Donc, salut à tous!
Salut!